Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé lundi 17 juin l'ouverture du Conseil des cardinaux, appelé C9, en présence du pape. L'actualité de l'Église nous conduit également au Togo, en République du Congo et en Éthiopie. L'actualité politique et sociale sur le continent africain concerne le Malawi, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, entre autres. Dans la deuxième partie de ce programme, l'invité du jour, nous parlerons de l'intelligence artificielle. Bienvenue encore une fois à l'écoute de ce programme que nous commençons avec l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-José Moindo.
Un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège a indiqué lundi 17 juin l'ouverture du Conseil des cardinaux. La première réunion de ce C9 créé par le pape pour l'assister dans le projet de réforme de la curie romaine et dans le gouvernement de l'Église a débuté en présence du Saint-Père. Il s'agit de la troisième réunion de 2024 après celle de février et avril. Lors de la dernière séance de travail du mois d'avril, l'accent a été mis sur la mise en œuvre de la constitution apostolique Praedicate Evangelium dans les curies diocésaines, sur les scénarios de guerre dans différentes parties du monde, en particulier au Moyen-Orient et en Ukraine, avec l'espoir de la part des cardinaux et du pape pour que soient accrus les efforts visant à identifier des voies de négociation et de paix. À la réunion du mois de février, les membres du Conseil ont discuté du rôle des femmes dans l'Église et ont écouté les réflexions des deux femmes, sœur Regina da Costa Pedro et la professeure Stella Mora. Le dialogue est la seule voie vers une paix juste en Ukraine. Cela a été fermement réaffirmé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, s'exprimant dimanche 16 juin en tant qu'observateur lors des deux jours de sommet de paix de haut niveau pour l'Ukraine à Burgenstock en Suisse. Il a lancé un appel au dialogue entre les parties ainsi qu'au respect du droit international et de la souveraineté de chaque pays. Le cardinal secrétaire d'État a également appelé à la protection des enfants et des prisonniers, tant civils que militaires. Rendons-nous en Éthiopie où les sœurs missionnaires de la Consolata ont fêté dimanche le centenaire de leur présence dans ce pays. La messe d'action de grâce commémorant ce jubilé a été présidée par le cardinal Beraneyesus Sourafiel, archevêque métropolitain d'Addis Abeba, un centenaire au service du peuple et de l'Église Famille de Dieu en Éthiopie, fidèle au rêve du fondateur de la congrégation, le bienheureux Joseph Alamano. Le compte-rendu de Christian Combé.
Présentes en Éthiopie depuis 1924, les sœurs missionnaires de la Consolata ont célébré leur centenaire dans le pays de la Corne de l'Afrique. 100 ans d'une présence évangélisatrice et d'une mission de consolation qui réalise le rêve de leur fondateur, le bienheureux Joseph Alamano, comme nous l'explique sœur Stéphania Raspo, conseillère et membre de la direction générale de la congrégation.
On peut dire que l'Éthiopie était le rêve de notre fondateur, le bienheureux Joseph Alamano. Il rêvait d'apporter l'évangile à tous ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus et sa consolation, son salut. Et connaissant le cardinal Masaya, un frère capucin qui avait évangélisé une région d'Éthiopie, il nourrissait depuis sa jeunesse le désir de poursuivre cette œuvre d'évangélisation.
La messe d'action de grâce a été présidée par le cardinal Beraneyesus Sourafiel, archevêque métropolitain d'Addis Abeba, avec la présence de plusieurs concélébrants, dont le nonce apostolique Mgr Antoine Camilleri. Une Eucharistie célébrée selon le rite guèze de la messe en la solennité de l'Ascension du Seigneur, suivant le calendrier éthiopien. Le primat d'Éthiopie a encouragé les sœurs missionnaires de la Consolata à poursuivre leur mission d'apporter la consolation du Seigneur au peuple de Dieu, en particulier les plus pauvres. Depuis Addis Abeba, Christian Combé pour Radio Vatican.
L'actualité de l'Église nous conduit cette fois en République du Congo où Séverin Moussavou nous fait part de la clôture des états généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire.
Les participants ont pendant 10 jours partagé, discuté et débattre des questions d'intérêt commun dans un esprit synodal. Chacun de manière libre et engagée a pu exprimer ses craintes, ses doutes, mais aussi et surtout ses attentes. L'abbé Jean-Gilbert Mavungu.
Nos états généraux ayant posé leur base le 4 juin ont été salués comme une noble nouvelle. Il n'y avait qu'à lire l'engouement et le bonheur sur le visage des participants ainsi que leur expression libre mais sans passion. Et cela, même quand il fallait toucher du doigt des réalités qui fâchent ou dire des vérités thérapeutiques sur les plaisanteurs, car tous avaient compris qu'il ne fallait pas rater le coach. Ce kairos ou opportunité de grâce plus que jamais connue. Aussi notre présentation laisse-t-elle entrevoir dans une vue d'ensemble ou panoramique ces axes essentiels et thèmes majeurs dont le contenu se trouvera développé de fil en aiguille sous forme systématique des actes dans un proche avenir.
À l'issue de cette messe de clôture, Mgr Abel Lilouala a publié un décret portant nomination du comité de suivi des travaux des états généraux. Ce comité est composé de 17 personnes avec à sa tête l'abbé Jean-Gilbert Mavungu, Séverin Moussavo, Pointe-Noire pour Radio Vatican.
Du 11 au 14 juin, la conférence des évêques du Togo a tenu à son siège à Lomé sa 136e session ordinaire, la deuxième de l'année 2024. Les travaux se sont déroulés dans un climat fraternel marqué par des prières et des célébrations eucharistiques à diverses intentions. La première journée de travail a été marquée par l'intervention du nonce apostolique au Togo, Mgr Marc Gérard Miles, qui a abordé principalement 3 points, à savoir le jubilé de l'an 2025, la deuxième session du synode des évêques sur la synodalité qui aura lieu en octobre 2024, ainsi que la formation permanente des prêtres.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 11 personnes sont mortes et des dizaines portées disparues dans le naufrage de 2 embarcations transportant des migrants en Méditerranée au large des côtes italiennes. C'est ce qu'ont affirmé lundi une ONG de secours en mer, les gardes-côtes et des médias italiens. Les recherches se sont poursuivies lundi avec des moyens maritimes et aériens des gardes-côtes et de Frontex. En République démocratique du Congo, au moins 1 mercenaire roumain et 2 militaires congolais ont été tués et 1 casque bleu de l'ONU blessé au cours de 3 événements séparés survenus samedi. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé dimanche que son parti continuerait de contester les résultats des dernières élections générales qui ont selon lui été truquées. Vendredi, le MK a boycotté la première séance parlementaire du pays au cours de laquelle le président sortant Cyril Ramaphosa a été réélu. Monsieur Zuma a été exclu de son ancien parti, le Congrès national africain, ANC, à cause d'accusations de corruption et remplacé par Monsieur Ramaphosa. Le président sortant, qui sera investi le 19 juin, dirigera un gouvernement d'unité nationale après que le scrutin organisé en mai n'a pas donné de majorité incontestable. Le gouvernement d'unité nationale comprendra notamment l'Alliance démocratique et le parti nationaliste Zulu Inkatha Freedom Party. Au moins 6 soldats nigériens d'une unité chargée de surveiller l'oléoduc acheminant le pétrole vers le Bénin ont été tués en début de la semaine dernière lors d'une attaque attribuée aux bandits armés dans le sud du pays. L'armée nigérienne a annoncé dimanche qu'une patrouille dédiée à la sécurisation du pipeline pétrolier a été attaquée par des bandits armés aux abords du village de Salkam. Au Malawi, 4 personnes sont décédées et 12 blessées suite à un accident de la route survenu pendant le passage du convoi funèbre du vice-président Saulos Chilima, qui est mort dans un accident d'avion la semaine dernière. Son corps était en train d'être transporté vers son village natal de Nsipe, à 180 km au sud de la capitale Lilongwe, où ses funérailles étaient prévues pour lundi. Selon un témoin, un véhicule en manœuvrant pour tenter de se dégager de la foule a écrasé un groupe de personnes dans le village de Ncheu, dans le centre du pays. Au Zimbabwe, la police a arrêté dimanche le chef de l'opposition, Jameson Timba, et 80 jeunes, les accusant d'avoir organisé un rassemblement politique qui, selon les autorités, n'était pas autorisé. La loi exige que les partis politiques demandent une autorisation à la police avant d'organiser un rassemblement public. Pomais Mkwananzi, porte-parole du parti Citizens Coalition for Change, a déclaré que ces arrestations étaient regrettables et les a qualifiées d'une agression démocratique. Après avoir évoqué dans nos précédentes éditions les objectifs du Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix, qui sont entre autres la promotion de la paix et la cohésion sociale dans le pays, M. Denis Ndour, coordinateur de ce conseil, nous parle cette fois des actions à mener en vue de la consolidation de la paix dans ce pays.
Nous ne voulons pas être des sapeurs-pompiers qui viennent juste pour éteindre les conflits. Et bien entendu, si le cas se présente, nous le ferions. Mais l'idée, c'est d'anticiper justement sur les conflits en faisant le plaidoyer sur la non-violence. Nous comptons faire des caravanes de la paix. Nous comptons faire également des semaines de prière pour la paix. Nous comptons également faire des visites régulières au niveau des khalifs généraux. Le khalif général, c'est par rapport à chaque confrérie, il y a quelqu'un, un chef religieux qui est au sommet, qu'on appelle le khalif général. Et ceci est valable également pour l'autorité des églises protestantes et luthériennes, et également au niveau de la conférence épiscopale des évêques et de l'archevêque de Dakar, que nous avons déjà rencontré dans le cadre de cette initiative. Nos actions vont se focaliser en matière de prévention de la paix. Et dans ce sens également, nous faisons des formations dans la médiation, donc pour former les leaders religieux à savoir comment jouer un peu à la médiation afin d'atténuer toute forme de crise, mais également des conflits. Nous avons existé pendant 2 ans. Mais c'est justement, on venait juste de rendre cet aspect-là solennel, puisque notre structure est affiliée également à la CRL RST, qui est une entité de leaders religieux et religion pour la paix, basée à Nairobi, au Kenya. Et d'ailleurs, le secrétaire général était parmi nous lors de ce lancement, le 8 juin dernier. Donc, comme activité, bien entendu, c'était, vous savez, le Sénégal était dans des moments de trouble depuis 2021. Bon, Dieu merci, le Seigneur nous a bénis, tout est revenu à l'ordre. Et donc, pendant ces périodes aussi, nous avons essayé de jouer à la médiation pour qu'il y ait plus d'accalmie dans le pays, en sensibilisant autant les femmes.
Quelles sont vos attentes, votre message à l'endroit de tous les Sénégalais par rapport aux activités de ce conseil?
Oui, l'appel, c'est pour emprunter un peu le pape dans son fratilité. Nous avons été faits pour l'amour. L'appel que nous lançons, c'est appeler les Sénégalais à cultiver l'amour et l'amour du prochain.
Monsieur Denis Ndour, coordinateur du Conseil interreligieux du Sénégal pour la paix, interrogé par Françoise Niamien.
Invité du jour.
Il y a quelques jours, le pape François s'est rendu dans les Pouilles au sud de l'Italie où il s'est exprimé sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'avenir de l'humanité, appelant à ne pas condamner l'humanité à dépendre des choix des machines car la dignité humaine en dépend. Étienne de Roquigny, qui est président du think tank Espérance et Algorithmes, également entrepreneur dans l'intelligence artificielle depuis des dizaines d'années, a travaillé sur les principes de la doctrine sociale de l'Église appliquée à l'intelligence artificielle et ses déclinaisons comme par exemple la gratuité d'usage des données et de ses systèmes. Il a assuré dans un entretien accordé à Radio Vatican, Vatican News, que l'Église doit avoir une parole forte et évangélique sur ce sujet. On l'écoute.
La première chose, c'est que, et ça c'est un des principes d'ailleurs sur lequel on a discerné depuis longtemps, c'est la concurrence. C'est que En fait, il y a un très grand risque aujourd'hui dans l'intelligence artificielle autour des oligopoles. Parce que si le futur de l'intelligence artificielle est entre les mains de quelques grandes entreprises internationales, les tentations d'excès de pouvoir sont très grandes et elles seront bien moindres s'il y a une concurrence très active. Et d'ailleurs, la doctrine sur l'UGIS parle de la concurrence comme un des moyens de quête du bien commun. Il faut absolument réguler la tentation oligopolistique. Parmi les entrepreneurs chrétiens, on aimerait bien que le pape, justement, puisse aussi parler d'une deuxième dimension qui est très, pour le coup, très intéressante et très évangélique, c'est l'open source. Et dans l'open source, qui pour moi est une illustration intéressante de la destination universelle des biens, un autre principe de la DSE, bah justement dans l'open source, on a une possibilité de développement par bien des personnes, y compris des entrepreneurs en Afrique qui peuvent se saisir des codes open source et faire des IA à leur niveau.
L'intelligence artificielle propose de véritables gains de productivité. Est-ce finalement son seul but de plus en plus d'efficacité?
Il y a quelque chose dans la tendance actuelle qui est à convertir. C'est que l'IA, depuis plusieurs années, a été beaucoup construite par des ingénieurs en quête d'efficacité. Et la science est en retard. Et la noblesse de la recherche scientifique, et en particulier la vocation chrétienne du scientifique, c'est quand même la quête de la vérité, et pas simplement de l'efficacité. Et donc, il y a tout un champ pour construire une vraie science, en fait, du réel. Et l'IA peut beaucoup nous aider pour ça. L'IA, d'ailleurs, a d'immenses intérêts pour mieux comprendre le monde, mieux comprendre le corps humain, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment pousser, parce que c'est pas la tendance naturelle.
Comme entrepreneur, pensez-vous que le monde de la tech, l'intelligence artificielle, attend une parole de l'Église sur ce sujet?
Le monde de la tech, les entrepreneurs et data scientists, c'est des gens qui sont en quête de sens. C'est pas des gens qui veulent faire carrière ou qui veulent gagner beaucoup d'argent. Non. C'est des gens qui veulent faire quelque chose pour changer le monde. Il y a vraiment une espèce de quête de sens. Et donc, on a des gens qui sont en quête de repères. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut résister à la tiédeur. Et c'est un peu pour moi le piège d'une version trop éthique politiquement correcte. C'est que si on descend dans l'éthique politiquement correcte, mais les chrétiens n'ont rien de plus que ce que dit le monde entier. Alors qu'ils ont tellement à dire. Vous voyez, si je prends les 6 principes du Rome Call of Ethics, je fais copier-coller avec tout ce que le reste de la planète a écrit. Vous voyez, il n'y a pas de différence en fait. Alors que les chrétiens ont tellement, l'évangile a tellement de justesse et de radicalité par rapport à une soif de repères qu'il serait dommage d'être tiède.
Selon votre expérience, que doivent alors dire ou faire les chrétiens face au sujet de l'intelligence artificielle?
Moi, plus ça va, ça fait 30 ans que je suis dans les sujets des algorithmes, hein, et j'ai toujours été à me dire comment est-ce que je suis le Christ. Bon. Et plus ça va, plus je me dis qu'en fait, si les chrétiens n'apportent pas un témoignage explicite et fort vis-à-vis de l'intelligence artificielle, les pierres vont crier. C'est-à-dire, je pense que l'intelligence artificielle est une gigantesque provocation qui appelle l'évangile. Et je pense que vis-à-vis des angoisses légitimes et profondes, qu'est-ce que c'est que la liberté, qu'est-ce que c'est que la dignité du travail humain, qu'est-ce que c'est qu'être une personne humaine par rapport à une machine, ce qui sont des questions qu'aujourd'hui nos contemporains, finalement, sous la pression de l'IA, se posent. Et je pense que l'Évangile a les réponses. Et je pense que le monde attend ces réponses.
Étienne de Roquigny, président du think tank Espérance et Algorithmes, était l'invité de Radio Vatican. Il répondait aux questions de Jean-Benoît Harel.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboilou a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jésus Christus.